carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Je vous emmène aujourd'hui à la Fondation Claude Monet à Giverny, en Haute-Normandie, pour visiter la demeure du peintre qui s'y installe en 1879. C'est une propriété à l'image du chef de l'école impressionniste, avec beaucoup de fleurs, des plantes d'eau, des nymphéas, un pont japonais, un atelier très particulier et une demeure aménagée selon le bon vouloir de Claude Monet. Visite donc en compagnie de Monsieur Vahey. Mais tout d'abord, écoutons Monsieur Hugues Gall, membre de l'Académie des Beaux-Arts et actuel directeur de la Fondation Claude Monet. Comment vivez-vous votre mission chez le célèbre feu peintre impressionniste ?
Je vis ma mission avec émerveillement d'abord. Je trouve que la confiance que me font mes confrères en me confiant la responsabilité de cette fondation, qui est, comme vous l'avez rappelé, une fondation de l'Académie des Beaux-Arts, c'est une confiance qui me touche. Je ne suis pas horticulteur, je ne suis pas spécialiste des jardins, je ne suis pas davantage historien de l'art. Je me suis beaucoup préoccupé de musique et de spectacle. J'ai une passion pour Monet, j'y reviendrai. Mais il y avait donc 6 mois que j'ai succédé à Florence van der Kemp, qui elle-même avait tenu très haut ce beau flambeau à la suite du décès de son mari Gérald van der Kemp, auquel on doit évidemment la renaissance de ce jardin. Comment je vis ça, mis à part l'étonnement et l'émerveillement? Je vis ça dans l'idée d'abord de maintenir le problème d'une institution, parce que c'en est une, comme le jardin de Claude Monet, qui est un chef-d'œuvre, vous le savez. Monet a conçu ce jardin comme une œuvre à part entière, renouvelée en permanence, puisque les fleurs, les couleurs, les arbres et la façon dont vit ce corps organique qu'est un jardin, il l'a conçu comme un chef-d'œuvre en mouvance et comme l'objet même de sa peinture. Pendant les 20 ou 30 dernières années de sa vie, ça a été le seul sujet, ou pratiquement le seul sujet de son œuvre. Et donc, la responsabilité du directeur que je suis, c'est de veiller à ce que, évidemment, cela se poursuive et ça continue. Ça continue comment? En apportant ce que je peux apporter de soutien à ceux qui en sont les artisans. Van der Kemp n'est plus là, mais son esprit vit toujours grâce à Gilbert Vahey, que vous avez interviewé, qui est le chef jardinier, est un homme tout à fait extraordinaire, à Claudette Lindsay, qui est la secrétaire générale. Enfin, nous recevons, vous le savez, entre le 1er avril et le 30 octobre, pendant ces 7 mois d'ouverture, recevons plus de 400 000 visiteurs, ce qui fait de Giverny et du jardin Claude Monet, après le Mont-Saint-Michel, l'endroit, le lieu le plus visité de Normandie. Et quand j'entends Normandie, je parle de la province de Guillaume le Conquérant, pas d'une des deux Normandies réunies. Ce qui est amusant aussi pour le directeur que je suis, c'est que lorsque j'ouvre Internet et que je regarde Giverny, Monet, etc., je vois le site officiel du tourisme de Normandie, et la première image, qui est comme une sorte de symbole de Normandie, c'est le pont japonais de Giverny. Ça veut dire que je vis ça avec un étonnement permanent. Et puis, je vis ça avec le sens que j'ai de la responsabilité que cette fondation et que cette entreprise culturelle, touristique, mis à part tout ce que nous avons d'autres comme responsabilité, la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la collectivité givernoise, qui est une petite ville de 500 habitants. Comme vous le savez, Giverny est bien à la bordée, au bord de l'Île-de-France, mais c'est un site qui se trouve sur le département de l'Eure, en Normandie.
Revenons à Monet, que représente le peintre pour vous ?
D'abord, pour rappeler un souvenir personnel, Claude Monet représente énormément pour moi. J'ai toujours aimé Monet, mes parents m'ont amené devant les toiles de Monet. J'ai été souvent dans toutes les expositions d'impressionnistes et dans les musées quand j'étais gosse voir Monet. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était la série moins les nymphéas que j'ai abordé, connu et aimé plus tard, que la série des cathédrales de Rouen. Alors, j'ai une grande reconnaissance à Monet, car il se trouve que je lui dois certainement en partie d'avoir une très bonne note en philosophie à mon baccalauréat, le sujet étant la perception des différents. J'avais fait tout un topo, qui a sans doute pas déplu à mes examinateurs d'il y a un demi-siècle ou presque, sur la perception que Monet avait du châtement de la lumière et de cette extraordinaire vision qu'il a donnée de la lumière sur un sujet qui ne variait pas, qui était cette cathédrale de Rouen. Donc d'abord ce souvenir et ce coup de chapeau de reconnaissance vis-à-vis de celui auquel je dois d'avoir le bac. Seul examen que j'ai jamais vraiment ambitionné d'avoir. D'autre part, pour parler sérieusement, je suis depuis toujours et depuis longtemps admirateur de cette vision de la... Oui, l'impressionniste, tout le monde le sait évidemment, puisqu'il est le porte-drapeau, probablement celui qui a donné en tout cas à ce mouvement son nom. Mais je suis sensible à ce qu'il y a d'appréhension de la lumière et de l'absence même, à un moment donné, du sujet. C'est-à-dire qu'on va dans les tableaux de Monet, qui sont, évidemment, comme vous le savez, considérables, c'est une œuvre importante, je crois qu'il a peint plus de 2500 tableaux sur une période d'activité très longue. Mais plus on se pénètre de sa peinture, et plus lui pénètre dans son art, et plus le sujet lui-même s'abstrait, et plus on entre dans, c'est vrai surtout de toute la série des Nymphéas, on entre dans une vision directe où la lumière, l'abstraction, le reflet, on ne sait plus où on est en réalité. Et il est le fondateur ou l'un des grands créateurs auxquels on ne cesse de se référer aujourd'hui, 100 ans plus tard. Il est un des fondateurs de l'art d'aujourd'hui. On ne peut pas imaginer la plupart des peintres, ni des créateurs, ni d'ailleurs des vidéastes d'aujourd'hui, sans l'étape essentielle qu'a représentée la vision de Monet. Et c'est pour ça qu'elle me touche et que je suis très fier. Car vous savez, comme directeur de la Fondation Claude Monet, avec tous les collaborateurs, la charge de ce jardin, qui est un chef-d'œuvre en soi, qui est un chef-d'œuvre mouvant, une fois de plus, toutes les semaines, tous les 15 jours, ça change. Pourquoi ces visiteurs sont-ils si nombreux à venir, à revenir? C'est parce que quand vous avez vu le jardin en avril, vous n'avez pas vu celui du mois de mai. Et quand vous avez vu la glycine au mois de mai, vous n'avez pas vu les nymphéas qui fleurissent. Et vous n'avez pas vu les iris. Et vous n'avez pas vu ce qui se passe maintenant. On parle, c'est le début de l'automne, un jardin foisonnant, extraordinaire, les teintes chaudes se mélangent. Tout ça est en permanent renouvellement. Et c'est ce qui fait la fascination pour moi de ce jardin, comme d'ailleurs de toute la nature qui nous entoure. Mais ça, c'est un concentré de tout ce que l'on peut éprouver de plus extraordinaire dans une œuvre vivante. J'ai la responsabilité aussi, mais ça sous le contrôle évidemment de mes confrères de l'Académie, et l'Académie est la propriétaire du jardin, et la propriétaire, mais c'est la Fondation Claude Monet, où c'est aussi mon rôle, que d'être responsable du droit moral qui s'attache à l'œuvre de Claude Monet, ce qui est assez évidemment touchant, puisque lorsque l'on décide quelque part au fin fond des États-Unis d'Amérique de consacrer un film dans lequel apparaît une œuvre ou dans lequel la personnalité de Monet, sa peinture pourrait être citée, on me demande à moi l'autorisation que je ne donne pas à la légère, évidemment. Il y a une responsabilité de cet ordre qui est une responsabilité dont je mesure, comment dirais-je, le poids.
Vous évoquiez la maison et les jardins de Monet tout à l'heure. Y a-t-il un endroit particulier du jardin qui vous émeut plus qu'un autre ?
Non, ce qui m'émeut, d'abord, il y a, vous savez, la maison, celle pratiquement dans l'état, enfin pas dans l'état, quand Gérald van der Kemp a repris cette fondation il y a maintenant 25 ans, ou un peu plus même, en fin des années 70, la maison était en triste état, l'Académie n'avait pas beaucoup d'argent, et on a donc restauré avec le regard si aigu et si scrupuleux de van der Kemp, on a restauré la maison qui est celle qu'a connue Monet, sauf qu'il n'y a plus de tableaux. Il y a des reproductions, mais il n'y a plus de tableaux. Cette maison, et ce jardin sont indissociables. Pourquoi ? Le jardin, c'est le jardin. Il y a deux jardins. Il y a le Clos Normand qui est ce jardin devant la maison. Et puis de l'autre côté de ce qui était naguère le chemin de fer, la petite route qu'on appelait le chemin du roi, se trouve, et encore aujourd'hui évidemment, cet admirable jardin d'eau avec l'étang creusé par Monet, avec ce bras de Lepte qui passe, et ces nymphéas célébrissimes. Bon, alors, selon les heures du jour ou de la nuit, parce que je me promène la nuit dans le jardin, il y a des moments qui sont plus extraordinaires dans tel endroit que dans tel autre, il y a des moments de la saison où telle partie du jardin est plus émouvante que l'autre, mais l'ensemble que constituent les jardins et la maison est un concentré de ce que ce pays qui est le nôtre, et ce que cette Normandie qui est un peu ma province, fait de plus rassurant. Il y a, se dégage de ce lieu une paix qu'on a dans, éprouve dans la nature. Pas nécessaire d'aller à Giverny pour être heureux dans un beau jardin. Mais la maison est une maison sans prétention. Elle n'a pas une prétention architecturale. Il se trouve qu'elle est, c'est une longère avec un petit fronton. Son crépi rose est là. Il y a quelques, évidemment, potiches japonaises qui... Hein. Tout ça est d'une proportion parfaite, calme. On est concentré sur le plaisir d'y être. On entre là-dedans. Et d'ailleurs, ce qui me frappe aussi, c'est de voir notre public, les visiteurs, qui sont nombreux à venir, à revenir, je vous l'ai dit. Ils sont non pas dans un silence respectueux. Ils sont dans une sorte de calme et de silence qui est simplement inspiré par le lieu. C'est pas une église. Ce n'est pas un lieu de recueillement. C'est un lieu de la paix tranquille. Et j'ai l'impression de voir ici, dans ce jardin où je suis souvent et où je suis très heureux d'être, quelque chose qui, au milieu des tourmentes qui sont les nôtres, et Dieu sait si la France en a subi de nombreuses depuis 1886 ou 83, je ne sais plus, monnaie à acheter cette maison, ben, un endroit où on se dit, ça change et pourtant c'est toujours la même chose. Et là, les qualités de ce peuple et de cette culture qui sont les nôtres sont portées à un degré que je ne dirais pas d'incandescence, parce que ce n'est pas incandescence, c'est mieux que ça. Ça est.
Merci, Monsieur Gall.
Merci à vous.
Monet, en premier lieu, c'était un passionné. Donc un passionné de peinture et comme tous les passionnés, ils vont au-devant de tous les obstacles, ils affrontent tout. Et donc à son époque, enfin, de se faire admettre, c'était déjà bon, très très dur, mais il y croyait. Et donc c'était un passionné de peinture, d'horticulture, donc de fleurs. De fleurs, et pareil, dans cette passion, il a été... tout en progression, et de cuisine, parce qu'il adorait bien manger.
Nous sommes aujourd'hui dans le jardin de Claude Monet. Est-ce que vous pourriez nous commenter les fleurs, la structure, ce que nous voyons ?
Là, nous sommes dans un coin du Clos Normand. Donc le Clos Normand, c'est le jardin légèrement en pente, face au sud, protégé par la colline du Nord. Et ça, c'est un jardin plutôt de fleurs. Très peu de gazon. Et ce gazon est occupé par des bulbes de printemps et des bulbes d'automne.
Il y a énormément de variétés.
Oui, énormément. Ce n'est que des massifs rectilignes. Certains se croisent. Il y a très peu d'arrondis. Mais l'élévation fait qu'à cette époque-ci, on ne voit plus ces lignes rectilignes. On aperçoit le flou des hauteurs.
Quelle est l'originalité de ce jardin, M. Vahey ?
L'originalité, c'est que c'est un jardin qui est conçu comme une palette de peinture. Sur une palette de peinture, il y a des taches de couleurs de posées. Et là, sur cette surface de jardin, il y a des taches de couleurs de posées. Donc des massifs, nous les avons numérotés pour pouvoir les repérer et parler de la même chose. Donc 16, 17 est bleu, 41 est bleu aussi, 1, 2, 3 est rouge, dominante rouge, 31, 32, 27, 28, 29 sont des massifs de couleurs chaudes, donc jaune, orange. Et en règle générale, les couleurs chaudes sont vers le bas et les couleurs froides, donc les bleus, sont vers le haut. Cette palette de peinture donc, veut dire que rien n'a été conçu pour un tableau, en fin de compte. Mais c'est à l'artiste, donc c'est au peintre ou c'est au photographe, enfin à l'homme de l'art, de choisir avant ce qu'il veut faire. Alors je m'explique, si jamais il veut traiter que des masses monochromes, il va se placer dans un endroit du jardin où il n'y aura que des masses monochromes, la couleur qu'il aura choisie d'ailleurs. Mais s'il veut un fond bleu par exemple et des couleurs chaudes devant, il se replacera à un autre endroit. Et s'il veut alterner, il se mettra... encore dans un autre endroit. D'ailleurs qu'en fin de compte, c'est au peintre avant de choisir ce qu'il veut montrer. Bien sûr, les éléments lumière sont très importants et suivant l'heure de la journée, il se placera d'une manière différente. C'est ça l'originalité de ce jardin.
Quelle place Claude Monet accorde à ce jardin dans sa vie, dans son cœur ?
Comme c'était un passionné de fleurs, ce jardin, donc le Clos Normand, lui a servi d'abord à s'exprimer, planter les fleurs qu'on lui offrait. Il avait des amis horticulteurs, des plus célèbres, donc il prenait des idées, les transposait chez lui. Donc c'était toute une élaboration. Et sa passion allait dans une progression où, après, il essayait de créer des variétés. D'ailleurs, il en a créé des variétés. Donc, officiellement, des variétés d'iris, des variétés de pavot et variétés de dahlia. Donc, on a essayé de rechercher, mais que l'on n'a pas retrouvé, d'ailleurs. Et ça, c'était le summum de sa passion, arrivé à la création.
Combien de temps passait-il dans son jardin, dans une journée ?
Alors ça, je ne peux pas vous le dire, mais je pense qu'au début, quand il est arrivé ici, il a d'abord créé ce jardin avec les enfants de la famille. Je pense qu'il devait passer beaucoup de temps, mais il avait ses autres passions, la peinture. Mais le jardin, même s'il partait peindre à l'étranger, il écrivait. Il y a d'abord une abondante correspondance, donc il s'inquiétait de son jardin. Il faisait commander, il faisait appliquer certains travaux à exécuter. Depuis l'étranger.
Je vous propose de nous tourner juste un petit moment sur l'atelier. Alors nous sommes situés juste à côté de son atelier. Quand est-ce qu'il a mis en place cet atelier ? Comment est-ce qu'il a évolué avec le temps ?
Alors l'atelier qu'il a occupé le plus longtemps, une quarantaine d'années, c'était le bloc de travail. En fin de compte, son atelier était au premier étage. Il y avait d'abord une terrasse ouverte qu'il a fait couvrir après et il dominait son jardin. Et il avait une très très belle verrière, bien sûr au nord. Et attenant à ça, il avait une bibliothèque parce qu'il collectionnait les livres dédicacés. Il avait une pièce de photographie parce qu'il s'adonnait aussi à la photographie. Et au rez-de-chaussée, c'était réservé donc au jardinier et puis une pièce pour son chauffeur et le garage pour sa voiture.
Est-ce que nous pourrions aller visiter cet atelier ? Ou est-ce qu'il est occupé aujourd'hui ?
C'est le bloc de conservation, donc c'est un bloc de travail. Il a été un peu modifié pour recevoir des visiteurs célèbres. Il en a reçu d'ailleurs. Donc ce n'est plus exactement l'atelier que Monet a connu. Mais on revoit la verrière, les grands éléments sont restés.
Donc l'élément particulier, c'est la verrière ?
C'est la verrière, bien sûr, c'est son lieu de travail. Donc,
c'est par là que la lumière passe.
Voilà, et puis c'est la lumière du nord, donc c'est la lumière qui n'est pas troublée par d'autres rayonnements. Donc c'est la pièce principale. En plus, au sud, bon, il avait la vue sur son jardin.
Avant d'aller voir peut-être la maison, est-ce qu'on pourrait se promener un peu dans le jardin et puis découvrir peut-être un élément qui retiendra notre attention ? Là, nous nous situons dans l'atelier de Claude Monet. Nous avons à notre droite une immense verrière qui doit faire au moins 3 mètres de hauteur.
Même plus, 4 mètres, même plus de 4 mètres. 4 mètres sur 3.
Donc, évidemment, une salle très haute de plafond.
Oui, oui, très très haute. C'est un très très beau volume.
Carré, on dirait.
Oui, carré, oui. Carré, avec une clé de charpente vu sa surface. Donc, c'est le poinçon qui récupère le support de toiture, que l'on ne voit pas d'ailleurs. Et ça dégage une grande verrière sur la toiture aussi.
Claude Monet suspendait ses toiles, vous me disiez ?
Oui, tout autour du mur, il y avait des lisses en bois et les toiles qui étaient peintes, étaient prêtes à vendre et étaient accrochées sur ses murs. Mais il en avait d'autres le long dans des boîtes. Mais c'est là qu'il recevait donc les marchands de tableaux ou ceux qui voulaient lui acheter des tableaux. Il choisissait ici.
C'est ici qu'il travaille également ?
Et c'est ici qu'il travaillait aussi, qu'il a travaillé le plus, en fin de compte. Parce qu'après, il a créé un troisième atelier, l'atelier des Nymphéas, parce que le projet des Nymphéas, l'étoile étant aussi grande, ne rentrait pas ici, il ne pouvait pas rentrer. Donc il a fait construire un très très grand atelier. Nous sommes à la sortie du souterrain qu'emprunte le public et qui a été créé en 79, juste avant l'ouverture, par une donation de M. Hennenberg pour sécuriser nos visites. Car les visiteurs, si nous n'avions pas ce souterrain, seraient obligés de traverser une départementale, un CD, qui est assez dangereux. Donc, avec ce souterrain, on a sécurisé les visites. Ça nous permet d'arriver à un bout de la propriété et on peut se diriger soit le long du détournement de l'Epte, car Monet, quand il a décidé de creuser son étang, il a fallu qu'il détourne un rue, c'est-à-dire un bras de l'Epte, pour pouvoir creuser à sa place un étang. Bon, ça a été beaucoup de difficultés administratives, mais il y est arrivé et il a creusé donc son étang.
Quelles sont les plantes qui nous entourent ? Puisque nous sommes plutôt près de l'eau, il faut des plantes particulières, j'imagine.
Ben là, nous sommes donc au début de la propriété, au point de raccordement du détournement du rue et la sortie de l'étang de Monet, donc une vanne de dévidoir, face à un massif de bambous. C'est-à-dire que l'étang de Monet, c'est en fin de compte deux étangs. Un premier, plus petit, qui est à l'ombre, et cette ombre est créée justement par le massif de bambous que nous avons devant nous. Et à la sortie du massif de bambous, un pont japonais à cet étranglement, un pont japonais très arqué, donc qui permettait à la lumière de passer sous le pont pour éclairer les Nymphéas dans la tache d'ombre. Et de l'autre côté, nous verrons par la suite une surface très détente, très allongée, elle en plein soleil.
On y va ?
Les nymphées ont du mal à supporter l'ombre, donc c'est difficile de les avoir en très bonne santé et en ombre.
Nous sommes près du pont japonais qui a été une grande source d'inspiration pour Claude Monet, n'est-ce pas ?
Oui, c'était un des pivots de ce jardin, parce que ce jardin d'eau, contrairement au Clos Normand, là, tout a été prévu pour poser son chevalet. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus original. Le parcours a été calculé, les points de fuite ont été calculés, tout a été fait. Et simplement, là, on attend les effets de la lumière. Tous les éléments du décor sont posés et c'est simplement la lumière qui va faire varier la perception de ce que l'on a sous les yeux.
Est-ce qu'il vient souvent, se recueillir dans ce coin du jardin ? Est-ce qu'il vient travailler ici souvent ?
En fin de compte, ça, ce jardin-là, c'est plutôt un atelier pour Monet. Donc son projet des Nymphéas, il voulait essayer donc de créer les variations de couleurs, les variations de reflets, en fonction justement des influences du rayonnement qui change entre le matin et le soir. Et rien de mieux que ce laboratoire sous les yeux pour pouvoir le voir et le transcrire sur sa toile. Ça, je pense qu'il l'a créé pour ça.
Il y a une énorme variété de plantes d'eau.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a très peu de terre végétale. Si vous remarquez bien, le niveau de l'eau, il y a 50 cm de végétal. Et il y a une concurrence racinaire incroyable entre les arbres, les fleurs.
Qu'est-ce qu'il a d'original, ce pont, en définitive ? Il y a une belle glycine au-dessus ?
Oui, il y a deux glycines. Il y a une glycine blanche et une glycine mauve, et qui fleurissent en décalé, justement. Et son originalité, c'est son cintre. Au Japon, on l'appelle pont clair de lune parce qu'il permettait au clair de lune de passer en dessous. Et enfin, Monet a utilisé ce pont pour ça, justement, pour que la lumière passe dessous pour éclairer la partie à l'ombre. Dans le cintre du pont, dans cette harmonie, Monet avait planté sur les berges de chaque côté des pétasies. Des pétasies, c'est des grandes feuilles arrondies. Et ça se marie très bien avec l'arc de cercle du pont. Nénuphar, c'est le nom français, et le nom latin, c'est nymphéa.
Donc on trouve beaucoup de nymphéas, ces nénuphars, tout autour du jardin japonais, du pont, et c'est extrêmement gracieux.
Ben oui, ils sont placés par taches, donc sur toute la surface.
À présent, Monsieur Veil, nous sommes dans la demeure de Claude Monet, dans le salon bleu. Vous pourriez nous commenter un petit peu ce salon ? On voit des estampes japonaises au mur notamment.
Le salon bleu, c'est la première pièce, mais dans le sens de la visite classique. Ce n'est pas la visite logique normalement. Les invités rentraient d'abord dans la salle à manger, et puis parce que le salon bleu, c'est la pièce après la salle à manger. Donc quand ils avaient fini de dîner ou de déjeuner, ils venaient dans le salon bleu pour lire, se reposer, prendre un spiritueux ou fumer. Parce que Monet, c'était un très grand fumeur. Donc je pense que dans ses amis, il y avait aussi des fumeurs. Et c'était cette pièce qui permettait de se reposer un peu.
Il collectionnait des tableaux, des estampes.
Oui, il collectionnait les estampes japonaises. Et il y en avait dans toute la maison. Sur tous les murs, il y avait des estampes japonaises, sauf dans deux pièces. Donc son premier atelier qu'il a transformé en salon, où là, c'était ses tableaux à lui. Et dans sa chambre à coucher, où il avait exposé les tableaux qu'on lui avait offerts de ses amis, donc de Renoir, ou Pissarro, ou Caillebotte, ou plein d'autres.
Tous ces illustres peintres sont passés par la maison de Claude Monet.
Tous ses amis, oui. Il n'y a pas que des peintres, il y avait des écrivains, il y avait des horticulteurs, il y avait tous ceux de sa passion. Il invitait ses amis et c'était sa passion.
Est-ce qu'il avait une personnalité à part, une sorte de chaleur ou le contraire, qui faisait qu'on avait vraiment du plaisir à venir ?
Je pense, moi je suis trop jeune, je ne l'ai pas connu. Je pense qu'il devait être chaleureux, il devait avoir son tempérament. S'il est arrivé à ce qu'il voulait, c'est parce qu'il s'imposait une discipline rigoureuse pour assouvir sa passion. Et puis il la faisait supporter aux autres aussi. Donc ceux qui avaient la même passion, ils comprenaient. Ceux qui ne l'avaient pas avaient peut-être du mal à comprendre. Mais ça, c'est la vie.
C'était quoi cette discipline, une journée type de Claude Monet ?
C'était lever de très très bonne heure. Très bonne heure parce que les plus belles couleurs sont à la levée du jour. Ça, c'est magnifique. Les jeunes qui se lèvent tard, qui vivent la nuit, ils perdent la beauté de la nature. La nature est magnifique, c'est au lever. Physiquement, dans le rayonnement lumineux, les couleurs roses sont le matin et le soir, mais le soir moins accentué parce qu'il y a un peu trop de jaune. Mais le matin, c'est formidable.
Pouvons-nous nous promener un petit peu dans la maison ? Dans quelle pièce, en fait, Claude Monet passait le plus de temps ? Quelles sont les pièces à voir absolument ?
Je pense que vers la fin de sa vie, il utilisait son salon-atelier parce qu'il quittait son bloc de travail, il venait prendre le thé et se reposer. Donc dans cette grange qui a été transformée en atelier et après en salon. Nous sommes obligés, par rapport à la maison, il y a une différence de niveau, donc de descendre une dizaine de marches pour arriver dans ce salon.
Il a également, comme l'atelier que nous avons vu tout à l'heure, une grande hauteur sous plafond.
Oui, une grande hauteur, et au-dessus, il y a sa chambre à coucher, mais une grande hauteur. Par contre, vous voyez, la baie vitrée, elle est mal exposée, elle est exposée plein ouest, donc ça convenait.
Il y a peu de lumière.
Ça ne convenait pas à Monet.
Et beaucoup de tableaux sur les murs.
Ah, beaucoup de tableaux, parce que toutes ces toiles, alors toutes les toiles qu'il gardait, qu'il n'avait pas vendues, soit il les gardait parce qu'il fallait les retoucher, soit parce qu'il les aimait, mais toutes ces toiles, il n'y avait pas de toiles d'amis, là, c'était les siennes.
D'accord.
D'ailleurs, il y a une photo d'époque, donc où on voit Claude Monet dans cette pièce, et vous pouvez regarder le mobilier, l'emplacement, tout est resté... Et remis comme à son époque, même le buste de Claude Monet, le bronze, que l'on n'avait pas en 1980 et que M. Van der Kamp a récupéré aux États-Unis, a réintégré sa place. C'est un bronze de Paulin, vous voyez, que vous voyez sur la photographie et qui a regagné sa place. En 80, nous avions mis un buste de Clémenceau à la place, mais on l'a laissé face à face. C'était son ami.
Où sommes-nous, Monsieur Vaille, à présent ?
Au-dessus du salon atelier, donc sa chambre à coucher, qu'il a fait construire. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des fenêtres hors normes par rapport au restant de la maison.
Elles sont beaucoup plus larges qu'habituellement.
Ah oui, très très. Donc dessinées par lui et pour lui. Donc il y a le maximum de lumière, des grandes fenêtres à l'ouest, une grande fenêtre au sud. Il est dans son jardin. Et à la fin de sa vie, il était beaucoup moins... Il pouvait moins bouger. Donc, il est de sa chambre, il suivait encore son jardin.
Parce qu'on a une vue donc, qui surplombe complètement le jardin. On le voit extrêmement bien.
Ah, oui, oui. Et d'ailleurs, il avait planté donc, un rosier grimpant juste là, sous la fenêtre. Là, donc, Mermède, le rosier qu'il préférait. Et il a une vue en toute profondeur sur son jardin. Il avait même sur son étang, mais à l'heure actuelle, c'est une route. Le niveau a été rehaussé, donc on ne voit plus le jardin d'eau. Mais à son époque, on le voyait.
On voit une énorme partie du jardin déjà.
Oui. Sont le cabinet de toilette de Claude Monet et le cabinet de toilette d'Alice Eugedet, donc sont côte à côte et la chambre d'Alice est après.
Cette salle à manger où nous sommes à présent est d'un jaune vif, avec beaucoup de peintures de Hokusai sur les murs, toujours Hokusai, beaucoup d'œuvres du peintre japonais Hokusai, et une salle à manger très gaie, Monsieur Vaille.
Oui, parce qu'elle est jaune, donc jaune avec les bordures aussi bien des meubles que des boiseries qui la cernent, en jaune un peu plus soutenu. Donc c'est ce deux jaunes différents. Et le jaune, c'est la lumière, c'est le blanc et jaune qui amène la lumière. Les ouvertures étant assez réduites, c'est des ouvertures d'époque, donc ça accentuait la lumière dans cette pièce. Ça la rendait beaucoup plus lumineuse. Alors, comme il est resté 43 ans ici, à une époque, on suppose que les moulures étaient peintes en bleu, donc ça faisait jaune et bleu. À quelle époque c'était jaune et bleu ? À quelle époque c'était comme maintenant ? Donc ça, on n'a pas arrivé à le situer.
Et donc, dans cette salle à manger, beaucoup de peintres illustres sont passés par ici et y sont passés. Beaucoup d'amis, beaucoup de moments conviviaux.
Oui, mais bon, la table est grande, mais la famille était grande aussi. Ils étaient au moins tous les jours plus d'une dizaine à manger. Donc, les amis en plus, la pièce, c'était juste.
La cuisine a également un cachet impressionnant, puisque par contre, là, elle est bleue.
Voilà, là, elle est bleue. Bon, sa passion, c'était la nourriture. C'est... Donc, il le représente parce qu'il était bien portant. Et il adorait récupérer des recettes à droite et à gauche, les faire appliquer par sa gouvernante ou sa cuisinière. Il s'est fait aménager une belle cuisine, une cuisine de professionnel à l'époque. Il y a un très beau piano, un piano d'époque qui n'est plus fonctionnel, il est tout percé, mais noir, avec l'eau chaude et tout, vraiment une belle cuisine.
Avec beaucoup de cuivre, donc du matériel effectivement très professionnel finalement.
Elle est carrelée jusqu'au plafond, toute la cuisine est carrelée, sauf le soubassement qui est peint en bleu, et ce sont des carreaux bleus et blancs. Toutes les casseroles en cuivre sont accrochées sous les étagères, il y avait une cheminée aussi. Enfin, là, c'était la pièce, en fin de compte, de travail où se retrouvaient donc les cuisinières, mais la lingère, le jardinier qui amenait les légumes, la porte fermée, parce que de l'autre côté, c'était réservé au maître, le maître de maison, donc c'était Claude Monet et sa famille.
Monet ne cuisinait pas.
Ça lui arrivait. Il adorait ça, il était passionné, donc je pense, mais j'en suis pas sûr.
Et donc la cuisine ouvre sur le jardin également, donc elle est en rez-de-chaussée.
Elle est en rez-de-chaussée et indépendante, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le personnel pouvait rentrer et sortir de cette pièce sans déranger personne. La porte communicante avec la salle à manger étant fermée.
Nous terminons à présent la visite de la Fondation Claude Monet qui se situe à Giverny en Haute-Normandie. Merci beaucoup Monsieur Vahey de nous avoir ouvert les portes de cette splendide demeure, de ces jardins. N'oublions pas que cette demeure a été léguée par le fils de Claude Monet, Michel, à l'Académie des Beaux-Arts en 1966. Et je vous invite à vous y rendre très prochainement. Vous pouvez télécharger cette émission sur canalacademy.com.